une histoire particulière. Un médium bostonien à Sarah Winchester. Pour apaiser les âmes des victimes de votre famille, il faut leur construire une demeure. La construire sans cesse, jour et nuit, jusqu'à votre propre mort. Alors, pendant 38 ans, Sarah Winchester, unique héritière du fameux armurier américain, construit une immense demeure labyrinthique. Son objectif, égarer les fantômes qui la poursuivent, tous victimes de la célèbre carabine. Frissonner 24 décembre, ça vous dit ? Allez, bon réveillon !
La pièce qui me fascine le plus, sans forcément connaître l'intégralité des 160 pièces qui composent cette maison, c'est certainement la Blue Room. C'est la pièce centrale, c'est la plus secrète, et c'est l'espace qui est entièrement dédié à la communication avec les esprits.
La maison hantée de Sarah Winchester, premier épisode, la malédiction.
Madame Winchester !
Un documentaire de Céline Duchesnay et Véronique Samouilov.
Madame Winchester, tout va bien ?
Dans cette maison, on sait toutes les anomalies, les bizarreries, effectivement, qui existent.
Hein. Philippe Baudouin, spécialiste du spiritisme.
Les fenêtres balcons, les escaliers qui ne mènent nulle part, etc. Mais il y a aussi cette fascination pour le nombre 13. Et dans cette Blue Room, cette pièce bleue, il y a ce nombre 13 qui est symbolisé par différentes figures qui entourent justement la table où va travailler nuit après nuit Winchester pour converser avec les esprits, à commencer par l'esprit de son mari défunt qui est décédé d'une tuberculose, et surtout recevoir les consignes des esprits bienveillants, les bons esprits qui lui permettent de construire de manière ininterrompue cette maison bien jusqu'à sa mort en 1922.
Les travaux vont bon train aujourd'hui.
Ouais. Deux jours comme Denis, on ne chôme pas ici.
La nuit aussi.
Oui, ça ne s'arrête jamais.
Par ici, s'il vous plaît.
Alors, j'ai sous les yeux une photo en noir et blanc du manoir de Sarah Winchester. Hein. Avant tout, ce qui surprend dans cette image, je trouve, c'est l'accumulation. L'accumulation de ces toits qui, à première vue, pourraient faire penser à un village. Avec des toits qui sont surplombés par des pinacles pointus, saillants, et qui donnent, j'ai l'impression, quelque chose d'assez menaçant. Et puis, quand on prend la peine, effectivement, d'aller dans le détail, parce que l'œil a un peu tendance à se perdre dans cette image, on voit sur l'un des pinacles une inscription. Wise, qui signifie sage, et puis un cheval en train de galoper. Alors il y a cette idée de vitesse. Sarah Winchester était obsédée par l'efficacité de ses ouvriers. Vraiment, il fallait à toute vitesse poursuivre la construction parce que l'idée, c'était aussi de conjurer la malédiction. Un médium du côté de Boston lui aurait dit que effectivement il y avait une solution pour conjurer le sort qui s'abattait sur elle, qui était de construire indéfiniment une maison dans l'Ouest américain, à côté de San Francisco, et à ce moment-là, cette maison deviendrait le piège pour capturer tous les fantômes qui la poursuivaient à cette époque-là. Et puis, Wise, qui entre complètement en contradiction, j'ai l'impression, avec le projet même de Winchester, puisque Wise, sage, c'est tout sauf l'attitude de Sarah Winchester, du moins en apparence, quand on regarde un petit peu cette fameuse maison sur cette photographie.
Suivez-moi, docteur. La maison compte près d'une centaine de pièces. On se perd facilement.
J'ai hâte de faire la connaissance de Madame Winchester.
Qui est Sarah Winchester ?
Alors, Sarah Winchester, c'est une jeune femme de la grande bourgeoisie, presque aristocratie en réalité, américaine de la côte Est.
Stéphanie Sauger, historienne.
Elle fait partie de ces familles qui vont construire l'Amérique des WASP, hein, des White Anglo-Saxon Protestant. Donc, elle est née en 1839. Elle se marie assez tardivement avec un jeune homme de bonne famille de New Haven, donc elle n'a pas été cherchée très loin, William Wirt Winchester. Elle est souvent présentée comme une femme de très petite taille, assez trapue, assez massive, pas très coquette, pas très exubérante, plutôt assez effacée. En réalité, on ne sait pas grand-chose de sa vie, comme beaucoup de femmes du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on sait quand elle naît, on sait à peu près quelle étude elle a dû mener, on sait quand elle se marie et quand elle a un enfant, c'est tout. C'est tout ce qu'on sait d'elle, quoi.
Et il y a un premier drame dans sa vie, c'est la perte de son enfant.
Oui.
À 6 semaines, Annie.
En fait, ce qui est souvent souligné dans le cas de Sarah Winchester, c'est l'importance des deuils qu'elle a connus dans sa vie. Et parmi les deuils familiaux importants, il y a évidemment au premier chef celui de sa fille unique, puisque le couple n'a eu qu'un enfant, cette petite Annie, qui meurt d'une maladie mystérieuse. Enfin, on ne sait pas exactement ce qu'est cette maladie au 19e siècle, donc il y a probablement une part d'incompréhension autour du décès de cette jeune enfant.
Et elle est morte d'une maladie terrible, hein.
Elle est morte
d'une maladie. Marasme infantile.
Oui, on se décharne en fait. Ça doit être atroce aussi visuellement, au toucher, enfin, de sentir son enfant comme ça, qui perd sa peau finalement. Ouais.
Bertrand Bonello, cinéaste.
Et là, elle perd complètement pied. Et donc, elle se tourne vers la voyance, presque. Et on lui explique que, à cause de son nom, il y a des centaines de milliers d'âmes comme ça qui demandent réparation. Et qu'il va falloir les accueillir. Et donc, déjà, faire un premier voyage qui est assez étonnant à l'époque, qui est de partir de l'Est vers l'Ouest. Et de construire jusqu'à la fin de sa vie une maison pour accueillir ses esprits.
Et c'est un deuil qui sera suivi d'autres deuils, puisqu'elle perd après son mari. Je crois qu'il y a sa mère qui meurt, sa grande sœur aussi qui meurt, son mari, son beau-père, en l'espace de 4 ans. Un certain nombre d'êtres chers disparaissent de son existence.
Oui. Surtout qu'il semble qu'elle se soit quand même beaucoup rapprochée de la famille de son mari, qu'elle se soit beaucoup rapprochée des Winchester, et qu'elle ait beaucoup admiré son beau-père, Olivier Winchester, qui est à l'origine du formidable succès de l'entreprise Winchester. C'était, semble-t-il, un modèle, y compris un modèle étonnant pour une femme du 19e siècle, c'est-à-dire un modèle d'entrepreneur. Elle admirait son sens des affaires, je pense.
William, l'époux de Madame Winchester, était l'actionnaire majoritaire de la manufacture d'armes à répétition Winchester. À sa mort, William a laissé un héritage considérable à Madame Winchester, ainsi que 51% de la compagnie. Madame Winchester a aussi perdu son seul enfant, Annie. On dit que le chagrin l'aurait poussé à se tourner vers un médium, un spirit, comme ils se font appeler. Après sa découverte spirituelle, elle est partie s'installer à l'autre bout du pays, à San José, où elle a acheté une maison qui, alors, comportait 8 chambres. Et le résultat de ses efforts est un édifice aux proportions démesurées, construit sans ordre ni logique, sans plan d'ensemble, un enchevêtrement de couloirs, un labyrinthe où le visiteur s'égare. Une maison qui s'agrandit jour et nuit, bâtie sur ordre d'une veuve accablée par le chagrin, et aussi tourmentée et imprévisible que cette maison.
De fait, elle va avoir une bonne partie de la somme constituante de l'économie de Winchester, donc ça en fait elle la première femme multimilliardaire de cette époque. Donc ça fait beaucoup.
Jérôme Poré, artiste.
Quand on connaît l'histoire de la famille Winchester, donc cette industrie d'armement qui était la forme technologique la plus avancée, la plus aboutie à cette époque-là, puisqu'ils inventent le premier fusil à répétition, c'est-à-dire que c'est les plus, on ne cible plus pour tuer, on tire dans le tas. Donc ça devient aussi un fusil où on n'est pas obligé de savoir tirer. Donc ça rend tout à fait une autre façon d'aborder la mort. C'est vraiment une arme de massacre.
J'ai entendu dire que la Winchester est toujours considérée comme la meilleure arme sur le marché.
Ah oui, la meilleure. Mais pourquoi est-ce la meilleure?
Elle a une grande précision, une longue portée, un fort pouvoir d'arrêt.
Elle tue. Elle tue sans discrimination.
C'est vraiment la suite à la guerre de sécession qui a c'est là où la Winchester s'est popularisée et qui en a fait la carabine, oui. C'est là-dessus en fait que son mari s'est finalement extrêmement enrichi et que voilà le poids de la fortune sur les âmes des morts en fait. Moi mon point de vue c'était que cette femme pour des mauvaises raisons hein, des raisons quasi patronymiques on va dire prenait sur elle le deuil d'une nation. Et on sait bien que l'Amérique s'est pas jamais su trop quoi faire de cette guerre. Et donc cette petite femme, parce que je devais faire 1m55, je crois, enfin, prenait sur ses épaules cette charge. Et je trouvais ça assez bouleversant. J'ai pas du tout envie de dire qu'elle est folle, par exemple. Hein. Voilà, elle s'est retrouvée avec un poids énorme. Et elle est partie dans le labyrinthe de sa pensée qui a donné aussi un labyrinthe architectural. Cette maison, c'est son cerveau. Oui. Alors, c'est une maison qu'elle a achetée et qu'elle n'a fait qu'agrandir. Et que dans sa logique d'agrandissement, il n'y a absolument pas de logique, à part la sienne. Donc, il y a des escaliers qui vont nulle part, il y a des pièces qui donnent sur du vide, il fallait que certains esprits puissent se perdre, qu'elles-mêmes puissent se perdre. Enfin, c'est une logique qui est la sienne. C'est simplement quelqu'un qui voit différemment, qui voit ce que les autres ne voient pas. Là, en l'occurrence, les esprits qu'elle partageait entre les bons et les mauvais. D'où cette espèce d'architecture complètement dingue dans la maison.
Croyez-vous aux fantômes ?
C'est un véritable dédale de pierre, de bois, de métal, dans lequel on se perd littéralement.
Je ne sais pas pourquoi cette maison n'est qu'une suite de murs.
C'est vraiment un lieu de perdition, de désolation peut-être en partie, mais avant tout de perdition, la maison Winchester.
Et même s'il n'y a pas de toit, je suis à l'abri, elle me maintient dans une position qui ne me permet pas de bouger.
Croyez-vous aux fantômes ?
J'ai vu ces plans qui sont issus de son écriture, qui par la suite ont été redessinés bien évidemment. Ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai réalisé la sérigraphie d'un de ces plans, c'est la multiplication. On retrouve une forme d'art de la répétition. Donc on se retrouve avec une dizaine de chambres sur un plateau, on va se trouver avec une dizaine de cuisines. Et j'ai remarqué que quand les gens regardaient ce tirage de plans, sans connaître l'histoire, mais juste en regardant, ils disent « Mais c'est bizarre quand même, c'est pas un hôtel. Il y a trop de répétitions, c'est pas possible. » Ça ne peut pas avoir d'usage particulier, il y a un problème.
Il y a quelqu'un ?
Ça veut dire que quand on regarde l'objet, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une forme labyrinthique avec des modes opératoires qui de toute façon n'ont aucune raison d'être démultipliés de cette façon-là, sauf pour perdre quelque chose.
Il y a quelqu'un ?
Les différents deuils sont interprétés en réalité comme des deuils liés au courroux des esprits mal morts, c'est-à-dire des hommes tués par la carabine Winchester, la carabine Winchester étant associée à la conquête de l'Ouest et donc associée au massacre des Indiens et à la mort de nombreux cow-boys également.
Et Winchester, dans son manoir, aurait eu l'idée de séparer clairement deux types de circulation, deux types de fluides finalement psychiques qui viendraient se croiser. Il y aurait d'un côté les bons esprits qui eux auraient la liberté d'aller et venir, et puis d'un autre côté les esprits malveillants. Alors eux, les esprits malveillants, effectivement, il faut absolument à tout prix les capturer, les piéger.
Est-ce que selon vous, la maison de Sarah Winchester est une maison hantée ?
Ah. J'ai voulu l'apercevoir plutôt comme une maison à hanter que comme une maison hantée. Parce que Il y a plusieurs éléments qui manquent. Le premier élément, c'est que dans cette maison, il n'y a pas vraiment de fantômes. Plus exactement, si Sarah Winchester est hantée, elle serait poursuivie plutôt par des esprits. Donc on est plutôt dans le cas d'une maison hantée spirit, à l'américaine. Il n'y a pas de cadavres dans les fondations de la maison. Et c'est à partir du moment où Sarah Winchester commence à l'agrandir que la réputation de hantée se met en place. Donc c'est pour ça que je parle de maison à hanter, parce que la légende et la rumeur qui a couru assez vite en réalité, c'est l'idée que si Sarah Winchester agrandissait sa maison, c'était pour capturer les esprits, soit des Indiens, soit des cow-boys tués par la fameuse carabine Winchester dont elle était l'héritière.
Vous savez, je tiens un registre de toutes les vies supprimées par une Winchester. Des centaines ont été répertoriées, mais des milliers manquent certainement. Les instruments de mort ont un lien profond avec l'au-delà.
Et la légende raconte également que s'il y a autant de pièces, c'est parce que non seulement il fallait capturer les esprits, mais aussi parce que Sarah Winchester n'aurait jamais dormi deux fois de suite dans la même chambre et qu'elle elle passait perpétuellement d'une pièce à l'autre pour échapper aux esprits.
La question du spectre amérindien est extrêmement présente dans l'histoire du spiritualisme moderne aux États-Unis, hein, dans la naissance de ces pratiques-là, de cette volonté de communiquer avec les morts. Puis, il faut dire aussi une chose, c'est que les médiums spiritualistes aux États-Unis vont souvent se réclamer de guides spirituels amérindiens. Et même grâce à la photographie spirit, à la photographie des spectres, on va voir apparaître au second plan de ces images, des chefs indiens, vraiment avec tout ce qu'on peut imaginer de stéréotypé de l'indianité, c'est-à-dire vraiment avec toutes ces plumes, même le tomahawk, la fameuse hache de guerre. Et ça, ce qui est assez intéressant, c'est toute l'histoire coloniale, en fait, finalement, des États-Unis qui, d'une manière très singulière, se cristallise dans ces images-là, avec à la fois une réappropriation de la culture autochtone par l'homme blanc, hein, le colon, et en même temps un rejet au second plan de ces esprits indiens. C'est-à-dire il y a une profonde ambiguïté qui est certainement tient à la mauvaise conscience des Américains, mais qui ne peut se départir finalement de cette hantise des peuples autochtones qui souvent vont surgir justement dans l'image ou durant les séances de spiritisme pour réclamer leur dû. Peut-être pour se venger, pour ce qui est de Sarah Winchester dans son fameux manoir, mais en tout cas pour venir réclamer réparation.
Tout ce vacarme, tous ces travaux.
Ils veulent que je construise les esprits tués par cette arme. Ils communiquent à travers des plans, des schémas, des dessins. Ils exigent que je reconstruise la pièce où ils ont perdu la vie. Ce qui m'inquiète toujours, c'est que je ne sais pas avec qui je parle. C'est peut-être un passant tué par accident, ou la victime d'un assassinat, ou quelqu'un d'autre.
Qui d'autre, Madame Winchester?
Au 19e siècle, dans la seconde moitié du 19e siècle, le spiritisme, on l'appelle le spiritualisme aux États-Unis, va utiliser ces communautés de deuil importantes. J'utilise cette expression de communauté de deuil que j'emprunte à Guillaume Cuchet, qui a travaillé sur le spiritisme, et je trouve qu'il a raison de souligner que le deuil a une part importante, ou la difficulté à faire le deuil a une part importante dans la compréhension de la vogue du spiritisme et du spiritualisme, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, dans la seconde moitié du 19e siècle.
Est-ce que vous pourriez nous décrire la séance room, cette fameuse pièce où elle faisait du spiritisme? À quoi elle ressemble?
La première fois que j'ai trouvé mention de cette pièce, c'est dans un article de presse de 1928, donc c'est après sa mort. Donc je ne sais pas si ça servait de pièce de séance du vivant de Sarah Winchester. C'est une petite pièce, en fait, une toute petite pièce. Sauf que ça colle pas en fait avec ce qu'on appelle une séance de spiritisme. Une séance de spiritisme, c'est forcément un moment collectif où on s'assemble autour d'une table ronde en général, et puis où on se donne la main pour créer une sorte d'énergie où le fluide spirit va pouvoir passer. Et l'objectif de la séance, c'est effectivement d'entrer en contact avec les esprits. C'est ce qui me semble très intéressant dans ce que j'appelle les maisons à hanter spirit, c'est-à-dire que les fantômes ne sont pas là vendus avec les pièces, ils viennent quand on les convoque, ils ne sont pas captifs de la maison, ils viennent pour répondre aux questions des vivants et des survivants. Et donc l'objectif de la séance, c'est d'établir une communication, c'est-à-dire que au 19e siècle, aux États-Unis, on pense le spiritisme comme une télégraphie spirituelle. Et de manière très intéressante, le spiritualisme américain naît en 1848, quelques années après la découverte du code Morse par Samuel Morse. Et ça fonctionne de la même façon. Samuel Morse utilise donc son code Morse, qui est un code à coup frappé, en quelque sorte. Et dans le spiritisme américain, l'une des premières formes de communication avec les esprits, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de manière un peu savante la typtologie, ce qu'on appelait aux États-Unis à ce moment-là les rapings, c'est-à-dire le fait de taper voilà sur la table, quoi, de donner des coups et d'élaborer un code qui pourrait être un langage commun entre les vivants et les esprits, avec finalement cette idée qu'il n'y a plus véritablement de mort, c'est-à-dire qu'il y a un continuum. Il y a la vie et ce qu'on appelle l'après-vie, l'afterlife, qui n'est plus la mort. Mais quand on visite la maison de Sarah Winchester, cette séance room est une pièce un peu étrange parce qu'en réalité, ce qu'on nous propose d'imaginer, c'est une pièce où Sarah Winchester serait seule à convoquer les esprits. Et elle serait un peu à la limite de l'écriture automatique, c'est-à-dire que elle imaginerait les plans de sa maison en proie à soit à des visions, soit parce qu'elle est possédée par des esprits. Ou... On nous amène en tout cas à imaginer cette procédure qui n'est pas vraiment dans le rituel habituel des séances de spiritisme au 19e siècle aux États-Unis.
Sarah Winchester. Nous, âmes des milliers de morts, réclamons réparation.
Plus ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle changeait aussi d'avis et d'humeur, on va dire, au fur et à mesure qu'elle avançait dans cette maison, qui est de fait n'est finie que parce qu'elle est morte. Donc, ça a certainement encore évolué, reconstruite, déconstruite en permanence. On va avoir beaucoup d'escaliers, hein, donc beaucoup de patios, beaucoup d'escaliers, beaucoup de couloirs qui va amener d'une pièce à une autre. Les pièces sont en général, quand on regarde, il y a une porte pour la plupart, donc elles sont quasiment en sens unique. Les dining rooms, les chambers. À chaque fois, parce que je vois le dining room, il y en a. Quasiment 5 ou 6 ou 7. Les chambres, j'en parle même pas, les foyers, etc. On sent que si on avait les yeux mandés là-dedans, on mettrait un temps fou pour se retrouver et pouvoir en sortir. Donc c'est assez marrant parce que c'est totalement impensable.
Et parmi toutes les pièces qui existent dans la maison de Sarah Winchester, est-ce qu'il y en a une qui vous interroge particulièrement ?
Alors moi, celle qui m'a le plus frappée, c'est la salle de bal, qui est gigantesque, surdimensionnée. Je me suis demandé pourquoi a-t-elle voulu construire une aussi grande salle de bal alors qu'elle n'invitait personne, quoi.
Je crois qu'elle passait une partie de ses nuits à jouer de l'orgue. C'est un instrument qu'on peut retrouver dans les églises, etc., mais qui est assez glaçant en même temps. Alors moi, je l'imaginais jouer des choses un peu improvisées, répétitives. Répétitives comme tout ce qui touche à l'obsession.
énergie. Ils viennent ici pour chercher une fin.
Et que dit le cœur ?
Ben, le cœur, il raconte un petit peu l'histoire qu'il vient de raconter, c'est-à-dire qu'il l'appelle, comme ça, il l'appelle, il disait « nous demandons réparation, nous demandons réclamation ». Mais le cœur en lui-même, oui, en effet, ce sont les esprits et ils demandent réclamation.
Donc ce sont des chants de l'au-delà ?
Comme on aurait pu imaginer que quand elle est seule dans sa maison, ces esprits autour d'elle l'appellent, oui.
Sarah.
Prendre sur soi le deuil d'un pays, c'est pas rien, c'est un vrai personnage tragique.
Sarah Winchester, nous pleurons, nous vous voulons vouer votre âme.
La difficulté, en réalité, c'est de comprendre à quoi ressemblait cette maison. Parce que il y a tous les récits qui nous expliquent la construction de la maison, qui prend des années et des années. Et puis, il y a un épisode visiblement très important qui est le tremblement de terre 1906. De 1906 qui déstructure complètement cette maison. Et puis, il y a la maison telle qu'on peut l'observer aujourd'hui, qui est devenue une attraction touristique, une sorte de Disneyland de... Alors, pas tellement de la hantise, hein, ils font plutôt une promotion autour du mystère. Voilà. La maison, l'attraction s'appelle The Mystery House, la maison mystérieuse, tout en disant que c'est The Most Haunted House. Donc voilà, il y a une espèce de jeu sur hantise, mystère, la maison la plus hantée d'Amérique, mais aussi la maison du mystère, avec un grand M, bien sûr.
Est-ce que vous y croyez ? À cette histoire de maison de fantômes.
Ça veut dire quoi y croire ? D'abord, c'est assez rare d'avoir une histoire entre guillemets vraie de fantômes. C'est-à-dire si elle y croit, moi j'y crois. Et puis au-delà de cette histoire de fantômes, c'est voilà, qu'est-ce que ça raconte vraiment finalement ?
Avec Philippe Baudouin, auteur d'ouvrages sur le spiritisme, Stéphanie Sauget, historienne et autrice de Histoire des maisons hantées, Jérôme Poré, artiste plasticien sonore pour son exposition Les Hôtes, dont on a entendu des extraits, et Bertrand Bonello, cinéaste et auteur du film Sarah Winchester, Opéra fantôme, dont on a entendu les chants. Extrait du film La malédiction Winchester de Michael et Peter Spiering, merci à Rachel Zerner. Prise de son, Alexandre Abergel, mixage, Olivier Dupré, attaché de production, Sylvia Favre, coordination, Christine Bernard. C'était La maison hantée de Sarah Winchester, premier épisode, La malédiction, un documentaire de Céline Duchesnay et Véronique Samuilov.
C'est l'histoire de Vlad Dracula, dit Tepes, prince roumain du XVe siècle. Il est le tyran ultime, un barbare dans le siècle de la Renaissance. Dracula veut dire le diable et le dragon à la fois. Vlad l'Empaleur reste une énigme. 400 ans après sa mort, Dracula prend les traits du prince des vampires sous la plume de l'auteur irlandais Bram Stoker. N'ayez pas peur d'écouter. Le prince Dracula, une histoire vraie. Une grande traversée de Matteo Caranta et Anne-Thérèse Franchini sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.